Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Camille Grosdidier et Anne Arbutson.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Au sommaire en ce lundi 9 février 2015,
triomphe de la Côte d'Ivoire hier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Un kamikaze de Boko Haram fait un carnage à Diffa au Niger.
Les populations sont plongées depuis dans la peur. Chacun s'est enterré chez lui selon des habitants contactés par la Voix de l'Amérique.
Notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa, a joint un témoin. Il nous en dira davantage.
La corruption ronge l'Afrique.
Aujourd'hui, le phénomène prend des proportions inquiétantes et fait le lit d'autres fléaux tels que le détournement de deniers publics, le blanchiment d'argent et la fuite de capitaux.
Kayé Lawson à Lomé reviendra sur l'impact de ce fléau.
Et Istanbul accueille le G20.
Sur une note plus légère, la star béninoise Angélique Kidjo décroche un second Grammy pour son album Eve.
Mais tout d'abord, le journal. L'armée nigérienne a repoussé dimanche une attaque lancée par le groupe islamiste Boko Haram contre la ville frontalière de Diffa, mais un kamikaze est parvenu à se faire exploser sur le marché de la ville, faisant au moins 5 morts et une quinzaine de blessés selon des habitants.
Notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa, a joint un témoin de l'attaque. Voici d'abord son compte-rendu de l'attaque.
L'explosion de la bombe a eu lieu aux environs de 10 heures temps universel dans le marché situé au cœur de la ville de Diffa, lancée par un homme sur une moto, selon certaines sources, déposée bien longtemps, selon d'autres. D'autres indiquent par ailleurs que c'est une jeune fille kamikaze qui s'est fait exploser. Le bilan provisoire et non encore officiel jusqu'aux environs de 19 heures hier faisait état de 2 morts et 16 blessés. Les populations sont plongées depuis dans la peur. Chacun s'est enterré chez lui selon des habitants contactés par la Voix de l'Amérique. La peur est d'autant plus grande que quelques heures seulement avant cette explosion, des tirs d'armes lourdes ont été entendus pas loin de la ville à la frontière avec le Nigeria. Des tirs qui viendraient d'une localité dénommée Douchi du côté de la rivière Komadougou qui sépare les deux pays. Selon des témoins sur place, les combattants cherchaient à endommager le pont qui est situé sur cette rivière. Les tirs ont également été dirigés vers le convoi du ministre de la Défense et du chef d'état-major de l'armée nigérienne en mission dans cette zone depuis la double attaque de vendredi 6 février qui a fait côté Niger 5 morts dont un civil, 2 militaires portés disparus, 20 autres blessés et plus de 100 combattants de la secte islamiste Boko Haram tués. En cette matinée du lundi, le Parlement nigérien se réunit pour donner l'autorisation au gouvernement d'envoyer officiellement des éléments des forces armées nigériennes au Nigeria pour combattre la secte islamiste Boko Haram. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Les élections générales prévues le samedi 14 février au Nigeria ont été reportées au 28 mars, soit 6 semaines plus tard, ce qui a provoqué une levée de boucliers, notamment au niveau de l'opposition. Elle a dénoncé dimanche une atteinte grave à la démocratie. Cher Ruben Dorsil.
Le principal rival du président Goodluck Jonathan à ce scrutin, l'ex-général Muhammadu Buhari, estime que la Commission électorale nationale indépendante s'est gravement compromise en cédant, selon lui, à des pressions pour reporter la date des élections. Les adversaires du président mettent en doute la raison évoquée par le président de la CENI, savoir des préoccupations pour la sécurité du vote et l'insurrection de Boko Haram. Attahiro Jega a fait l'annonce samedi soir.
If the security of personnel, voters,
s'il est impossible de garantir la sécurité du personnel, des votants, des observateurs et du matériel électoral, la vie des innocents ainsi que la perspective d'un scrutin libre, juste, crédible et apaisé serait gravement menacée. Par conséquent, la Commission a décidé de reprogrammer les élections générales de 2015. Le vote pour le choix du président et de l'Assemblée nationale aura désormais lieu le 28 mars, a dit M. Jega. La CENI a expliqué avoir repoussé le scrutin en réponse à des demandes officielles faisant valoir que les forces de défense ne seraient pas en mesure de sécuriser les bureaux de vote à cause de l'offensive en cours dans le nord-est du Nigeria contre le groupe terroriste Boko Haram. La secte islamiste radicale contrôle de larges pans de territoire et les experts s'accordent pour dire que les élections crédibles et sécurisées dans cette région du Nigeria seraient probablement impossibles.
Au moins 22 supporters égyptiens de football ont été tués et nombre d'autres blessés dimanche dans des affrontements avec la police au Caire. Selon l'agence de presse égyptienne MENA, l'incident est survenu lorsque des fans du club de Zamalek ont tenté d'envahir un stade pour assister au match entre les clubs de Zamalek et d'Anpi.
La police a usé de gaz lacrymogène pour les disperser, selon un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur.
La chanteuse Angélique Kidjo, l'une des plus grandes stars de la musique africaine, a gagné dimanche son second Grammy récompensant le meilleur album de musique du monde pour Eve, dédié aux femmes d'Afrique. Cet album est dédié aux femmes d'Afrique, leur beauté et leur résilience, a déclaré la chanteuse béninoise en recevant son prix. Femmes d'Afrique, vous êtes formidables, a-t-elle dit.
Angélique Kidjo était retournée au Bénin pour travailler sur Eve et elle a voyagé avec un enregistreur pour capter les rythmes et les harmonies des chœurs des femmes, rappelle l'AFP. Angélique Kidjo avait déjà remporté un Grammy pour l'album Jin Jin en 2007, auquel avaient collaboré le guitariste Carlos Santana et la star R&B Alicia Keys. Nous entendrons un extrait de cet album en fin d'émission.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien prédit qu'un cessez-le-feu rapide et inconditionnel sera accepté mercredi entre son gouvernement et les séparatistes pro-russes. Petro Poroshenko affiche cet optimisme alors qu'à Berlin, les représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la France et de l'Allemagne tenteront ce lundi de s'entendre sur un éventuel accord devant mettre un terme au conflit dans l'est de l'Ukraine. Nicolas Pino.
En effet, une rencontre entre des diplomates russes, français, allemands et ukrainiens est prévue ce lundi à Berlin pour finaliser les détails d'un éventuel accord. Toutefois, le président ukrainien est optimiste quant à l'issue de ce sommet quadripartite mercredi à Minsk, capitale du Bélarus. Petro Poroshenko prédit l'adoption d'un accord de cessez-le-feu inconditionnel entre Kiev et les rebelles séparatistes. Il se joindra à ses homologues russes, Vladimir Poutine et français, François Hollande, ainsi qu'à la chancelière allemande Angela Merkel. Pour rappel, en dépit d'un cessez-le-feu en septembre dernier, les violences ont continué dans l'est de l'Ukraine, notamment à Donetsk. 12 civils et 12 militaires ukrainiens sont morts hier dans les combats entre l'armée et les séparatistes pro-russes. Le secrétaire d'État américain John Kerry a réaffirmé l'unité des partenaires européens en vue d'une solution diplomatique au conflit. John Kerry a déclaré lors d'une conférence de sécurité à Munich que les États-Unis et les dirigeants européens restent unis pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Il n'y a pas de division, pas de scission, rassure le patron du département d'État. Nous convenons tous que ce conflit ne peut être résolu par la force militaire. Nous sommes unis dans notre diplomatie, a déclaré John Kerry.
Ministres des Finances et banquiers du G20 se réunissent à Istanbul lundi et mardi pour coordonner leur action en faveur de la croissance mondiale. Parmi les défis à relever, les inquiétudes sur la capacité de l'économie américaine à tirer le reste du monde, l'impact de la chute des cours du pétrole, l'appréciation du dollar et le regain de tension autour de la dette grecque.
En Afghanistan, le président Ashraf Ghani a exhorté la communauté internationale à ne pas détourner l'attention de son pays déchiré par la guerre. Il a averti qu'il reste le confluent de plusieurs réseaux terroristes mondiaux, y compris l'État islamique. Henri Francisque.
Prenant la parole dimanche à la conférence de Munich sur la sécurité, le chef de l'État afghan avertit qu'il y aura des conséquences en cas d'un abandon de l'Afghanistan par la communauté internationale. Le groupe État islamique, dit-il, est déjà sur le terrain et est capable d'organiser, d'orienter et de prendre des mesures. Le dirigeant afghan a assuré la conférence que son pays s'efforce de faire face aux défis internes, y compris le terrorisme, mais il aura besoin d'un soutien mondial continu. Il est important à rappeler Ashraf Ghani de ne pas considérer les événements se déroulant en Syrie, en Irak, au Yémen et en Libye comme étant totalement séparés de la situation en Afghanistan. Sa déclaration intervient 3 jours après une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles où pour la première fois en 13 ans, le conflit afghan était absent du programme.
Voici pour les nouvelles, ici VOA Afrique et maintenant on enchaîne avec le journal de la CAN en compagnie de Nicolas Pino.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier journal de la CAN sur VOA Afrique. Au bout de l'effort, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique 2015. Le sourire ce matin de Bata jusqu'à Abidjan, Les éléphants de Côte d'Ivoire ont enfin remporté cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations qui les fuyait depuis 23 ans. Le dernier sacre des Ivoiriens remontait à 1992, c'était déjà face au Ghana. Et là aussi, il avait fallu recourir au tir au but. Hier soir, sous le déluge de Bata, les Ghanéens auraient pu espérer mieux après avoir touché deux fois le poteau. Mais 0-0 à la fin du temps réglementaire et des prolongations, les Ivoiriens se sont alors montrés les plus adroits lors de la séance de tir au but, 9-8. C'est Kopa Bari, le gardien qui ne devait même pas être titulaire, qui a inscrit le dernier pénalty et délivré tout un peuple. Coup de chapeau aussi à Hervé Renard, le sélectionneur qui remporte sa deuxième CAN après celle gagnée avec la Zambie en 2012. Retour sur ce match dans le coup de sifflet de Jules Valentin Ngwe.
Bonjour, ceux qui ont le nez creux n'ont cessé de le répéter. Cette sélection ivoirienne totalement remaniée, après le départ de la plupart des étoiles de la génération dorée, réunissait paradoxalement des atouts l'autorisant à atteindre l'objectif ultime. Il y a d'abord cette absence de pression liée à une qualification laborieuse et un statut d'équipe de transition moins harcelé. Il y a aussi cette composition plus équilibrée du groupe, avec moins de vedettes attitrées, associées à quelques lieutenants brillants, auxquels se sont joints de courageux porteurs d'eau, animés d'un esprit de gagneur, propre aux attachants loubards de Trècheville et de Yopougon. Il y a enfin l'arrivée d'un entraîneur aboyeur qui a su transmettre son tempérament au groupe, dont l'esprit d'équipe a dépassé toutes les espérances au cours d'une compétition gagnée match après match. Le public africain, si friand de mystère, brodera longtemps sur les similitudes entre les finales de 92 et de 2015, avec un match intense opposant les mêmes frères ennemis qui n'ont pu être départagés que par une longue séance de tir au but gagnée par la Côte d'Ivoire grâce à son gardien de but. La victoire de la Côte d'Ivoire est une rédemption libératrice, un bonheur à mettre au crédit de tous ceux qui ont mis le football de ce pays en orbite depuis 10 ans. À bientôt.
Maigre consolation pour les Black Stars du Ghana, c'est Tatsu qui a été élu meilleur joueur du tournoi. La République démocratique du Congo, elle termine 3e de cette CAN après sa victoire, là encore, au tir au but dans la petite finale face à la Guinée équatoriale. Javier Balboa et Mbélé ont raté leur tir au but pour la Guinée. Grosse satisfaction de Florent Ibengué, le sélectionneur de la RDC.
C'était pas un match, le plus beau match qu'on ait pu faire, je crois que... Mentalement, que ce soit nous l'équipe de Guinée, on était déçus de ne pas atteindre la finale. Et quand c'est comme ça, ça donne pas un grand match. Donc c'était un peu le cas, mais on a réussi justement. On voulait mettre du rythme parce qu'on savait qu'ils avaient eu une journée de moins de récupération. Mais malheureusement, on n'a pas su le faire. Donc ça a donné ce match un petit peu difficile à vivre du banc de touche. On a eu un objectif, on a un projet pour gagner en 2017 ou 2019. Donc fatalement, il y a des gens qui arrêtent et de nouveaux qui vont arriver. C'est ça la dynamique d'un groupe, justement, il faut qu'il y ait du mouvement. Il y en a qui vont arriver, on va regarder tranquillement pour pouvoir avancer avec la base de ce groupe.
Florent Ibengué, le sélectionneur de la RDC. Le pays organisateur lui finit 4e devant son public, une place qui ne fera pas oublier les incidents lors de la demi-finale face au Ghana. On écoute Elong Douala, joueur équato-guinéen.
Déjà, je dirais qu'on a mérité au moins d'avoir la 3e place. Nous ne sommes pas arrivés. Vraiment, un coup de chapeau à tous mes coéquipiers, à tout le public, tout le peuple, vraiment. Aujourd'hui, ils ont été fantastiques. Ils nous ont essayé de faire oublier ce qui s'est passé le dernier match. Ça, nous donnons vraiment un coup de chapeau, quoi. On va pas baisser la tête, on va continuer à travailler. Déjà, on n'était pas tellement tant attendu pour cette 4e place. Ben, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et on tâchera de travailler pour les prochaines compétitions, quoi.
Elung Douala, joueur d'une Zalang nationale, des réactions recueillies à Malabo par Thierry Kambundi de Top Congo, notre partenaire à Kinshasa. Voilà, ainsi s'achève ce journal de la CAN. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir dans Sporama, 19h temps universel sur VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour vous présenter les dossiers du jour. Tout d'abord, la secte islamiste nigériane Boko Haram a encore attaqué le Niger. Ce dimanche, un kamikaze s'est fait exploser dans un marché de Diffa, ville frontalière du Nigeria, faisant plusieurs morts. L'explosion est intervenue après une double attaque vendredi sur cette même ville de Diffa et sur Bosso, localité située à 3 km du Nigeria. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdulrazak Razak Idrissa, qui s'est entretenu également avec un témoin de l'attentat à Diffa.
C'est un petit enfant de 14 ans qui portait la bombe dans les environs de 11 heures.
Mais il venait d'où le petit?
Ah là, vraiment, je ne sais pas. Parce qu'il y en a pas beaucoup, ici à Diffa. Mais seulement, on ne les reconnaît pas. On vivait avec eux.
Vous étiez juste à quelques mètres de là où l'explosion... Comment
oui,
ça
oui,
s'est passé effectivement?
Je suis à côté, il y a mon atelier qui est à 5 mètres du lieu. Vraiment, c'est possible de voir ça. C'est pas bon.
Personnellement, vous n'avez pas été touché?
Non. Ah, grâce à Dieu, nous, on n'est pas touché.
Il y a des informations qui circulent sur le bilan. D'autres parlent d'un mort, d'autres parlent de 2 et de 16 blessés. Combien il y a eu exactement de victimes?
Il y a à peu près 8 ou 9 blessés. Il y a eu un mort. Il y a d'autres qui n'ont pas de jambes, d'autres... Ah, c'est pas bon à voir, monsieur. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'explosion? Comment a été la réaction des populations et puis de...
Ah, ils se sont éparpillés. Ça n'est pas... Nous, on y est actuellement, je suis sur le point de quitter la ville.
Quitter la ville de Diffa?
Ah, sûrement.
Pour aller où?
Ah, non, on va quitter, on va pas rester ici. Jusqu'à présent, je n'ai même pas mangé ni boire aujourd'hui. On s'est réveillé avec des tirs de roquettes aujourd'hui. Depuis 6 heures du matin, on s'est réveillé avec ça, tout le monde. Voilà, actuellement, je n'ai même pas mangé ni boire. Et seulement, je fumais à peu près 3 paquets de cigarettes. Demain ou après demain, je quitterai. Déjà, ma famille est à Zendel. Inch'Allah.
Alors, justement, actuellement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la ville? Est-ce que les gens sont dans la ville ou bien chacun est chez lui?
Non, il y a des gens qui circulent actuellement. Mais le marché est fermé, actuellement. Mais il y a des gens qui circulent un peu comme ça. Mais nous, actuellement, on est à la maison en train de ranger nos affaires pour quitter la ville. On est sur le point de quitter.
Parce que vous avez peur?
Ah, vraiment, on a peur. Vraiment, on a très, très, très peur.
Mais il n'y a pas des éléments de l'armée qui patrouillent dans la ville ou qui vous rassurent que vous pouvez rester?
Maintenant, je ne peux pas rester dans l'argent du pas. Ni à Mene, ni à Boudoumaria, ni à Botouni, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas un lieu sûr que tu vas rester ici à Diffa. Il n'y a pas ça. Parce que ils ont dit qu'ils vont rentrer ici à Diffa. Ils vont tout faire pour détruire le pont qui nous relie entre Douti et Diffa. Ils vont faire tout pour détruire ça.
Mais quand vous dites que vous allez quitter, ça veut dire qu'il n'y a pas, vous pensez qu'il n'y a pas assez de sécurité, il n'y a pas assez d'éléments de l'armée, des forces de défense pour vous assurer la sécurité?
Non, mais le plus grand problème, c'est ceux qui sont dans la ville de Diffa. C'est ça le problème.
Notre correspondant Abdulrazak Idrissa s'entretenait avec un témoin de l'attentat à Diffa.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Camille Grosdidier pour Le Monde aujourd'hui. Le développement des pays africains risque d'être ralenti pour cause de corruption. Le phénomène est omniprésent sur le continent au point où la corruption est perçue par les populations comme étant normale. Signale notre correspondante à Lomé, Kay Lawson. Des actions en faveur de la société civile sont engagées pour que les associations et mouvements syndicaux puissent s'impliquer dans la lutte contre ce fléau. On écoute Kay Lawson.
Dans le dictionnaire Robert, la corruption est définie comme des moyens employés pour faire agir quelqu'un contre son devoir et ou contre sa conscience. Aujourd'hui, le phénomène prend des proportions inquiétantes et fait le lit d'autres fléaux tels que le détournement de deniers publics, le blanchiment d'argent et la fuite de capitaux. Tchèk Tidiane Ba du Forum Civil, la branche sénégalaise de Transparency International.
La fuite des capitaux, c'est une préoccupation majeure des organismes internationaux, des États, mais également des citoyens qui doivent en bénéficier les premiers de ces fonds qui devraient être réinvestis dans les secteurs les plus attendus de la nation, tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable. Et beaucoup de pays de l'Afrique sont touchés par ce phénomène, du fait des agents publics qui détournent des deniers publics. Et là, c'est un véritable problème. L'argent souvent est blanchi et échappe au contrôle du fisc.
La lutte contre la corruption fait partie des critères sur lesquels les États-Unis d'Amérique se basent pour accompagner le développement dans un pays. Dana Banks, la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Togo.
Les pays qui fonctionnent de manière ouverte et responsables bénéficient de plus d'assistance et d'investissement que ceux où la corruption est élevée. La corruption doit être supprimée là où elle existe, au profit du développement et du bien-être des citoyens d'un pays. Beaucoup de pays en voie de développement sont les plus corrompus, car le fleuve de la corruption est si répandu que les gens l'acceptent comme un moyen nécessaire pour obtenir un service.
Parlons des mesures pour endiguer la corruption. L'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, UNSIT, estime que le Togo doit adopter le plus tôt possible son nouveau code pénal qui criminalise la corruption. Pascal Adjoté, coordonnateur du projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite de l'UNSIT.
Le projet de loi du 7 novembre 2012 portant nouveau code pénal du Togo est sur la table de l'Assemblée nationale. Si on le vote, ce serait très bien parce que ce nouveau code est le seul qui comporte maintenant l'incrimination de l'enrichissement illicite. Surtout, nous osons croire qu'avec encore l'initiative du gouvernement à mettre en place une haute autorité de lutte contre la corruption, ça va amener à lutter contre un certain nombre de dysfonctionnements.
Devant le coup dur que portent la corruption et les autres fléaux à l'économie des pays africains, Tchèque Tidiane Ba du Forum Civil invite la société civile à jouer son rôle de supervision.
La société civile doit jouer un rôle de veille et d'alerte et s'engager pour le bien-être des citoyens où qu'ils se trouvent. Aujourd'hui, la nouvelle dynamique du point de vue du droit international, seuls les États ont compétence à rester en justice pour le recouvrement des avoirs. Mais la société civile ne doit pas être restreinte sur cette question. Elle doit se mobiliser pour que quand même l'argent qui quitte l'Afrique, qui quitte leur pays, soit rapatrié. On ne peut pas rester là chaque année à tendre la main avec l'aide publique au développement alors que nous avons besoin de disposer de nos fonds.
Dans son rapport publié le 3 décembre dernier sur la perception de l'indice de la corruption dans le monde, l'ONG Transparency International affirme que l'Afrique et l'Asie, les deux régions du monde à forte potentialité de croissance, sont les plus corrompues. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Des milliers de personnes ont manifesté ce week-end à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour demander la dissolution du régiment de sécurité présidentielle. Ce régiment suscite une vive controverse et notre correspondant Zoumana Wanogo revient sur ce débat.
Le régiment de sécurité présidentielle tient à rassurer toute la population qu'il n'est pas en marge de la transition voulue par le peuple burkinabé. Il est engagé pour une issue heureuse du processus et du calendrier de la transition qui permettrait de mettre en place un pouvoir légitime issu des élections démocratiques. Loin de nous un quelconque agenda caché pour perturber ou interrompre cette marche du peuple, nous réaffirmons notre appartenance à l'ensemble des forces armées nationales et c'est ensemble que nous allons remodeler notre pays au bénéfice et à la fierté de tous.
Déclaration du RSP, régiment de sécurité présidentielle, lu par le capitaine Abdoulaye Dao, est l'un des résultats des travaux de la commission de réflexion mise en place par le président Michel Kafando. Qu'en pensent les Burkinabés?
Engagement ou pas, je pense que le peuple est debout et le peuple ne va pas se laisser faire. La raison pour laquelle il avait été créé là, cette raison n'existe plus. Alors qu'il va falloir bien franchir le pas et rejoindre l'armée régulière.
Pour nous, la question c'est pas en termes de déclaration. Nous avons simplement demandé, exigé d'ailleurs, que le RSP soit dissous. Nous n'avons pas dit que les militaires doivent être en errance. Ils doivent rejoindre l'armée républicaine et travailler au sein de cette armée-là comme des soldats républicains. Point barre. Les prises en otage des conseils des ministres, les prises en otage de la République, c'est fini.
L'autre résultat des travaux de la commission de réflexion est la réorientation opérationnelle du régiment de sécurité présidentielle, a dit le général Pengrenoma Zagré. Il est le chef d'état-major général de l'armée burkinabé.
Au regard donc du changement politique du changement de régime que notre pays a connu depuis la fin du mois d'octobre, il y a donc nécessité de réorienter l'emploi opérationnel du régiment de sécurité présidentielle qui est une unité d'élite afin de l'orienter vers les missions de défense et de sécurité du territoire national. Et nous avons eu un entretien au sein de la caserne du régiment de sécurité présidentielle avec une délégation d'officiers, de sous-officiers et le militaire du rang. Et nous avons mis en évidence l'obligation pour nous de ne rien entreprendre qui puisse entraver la cohésion au sein des forces armées nationales et encore moins entraver le processus de transition qui est en cours.
Les conclusions des travaux de la commission de réflexion ont été rendues publiques le vendredi dernier et le samedi, les populations étaient à un meeting à l'appel des organisations de la société civile et des partis politiques. Et c'est là-bas que nous avions rencontré Maître Benewende Sankara sur cette question du RSP. On l'écoute.
Le régime de sécurité présidentielle n'a plus sa raison d'être. Son démantèlement avait été recommandé par le collège de sages depuis le 30 juillet 1999. Aujourd'hui, exiger la dissolution et le démantèlement du régime de sécurité présidentielle est une exigence de notre peuple. De ce point de vue-là, nous pensons que les tractations qui sont en cours avec les autorités de la transition devraient purement et simplement être reversées dans le cadre des réformes générales.
Faut-il croire aux bonnes intentions du RSP? À cette question, Safiatou Lopez Zongo, la présidente de l'Association pour la démocratie et la participation citoyenne, se veut catégorique.
Je ne crois pas au RSP. Le nom RSP même ne doit plus exister. S'ils sont avec le peuple, ils doivent déjà commencer par dire « Nous nous mettons avec l'armée républicaine. Nous quittons la présidence. » Personne ne sera en sécurité dans cette présidence-là. Je pense que le RSP n'a pas de déclaration à faire. Le RSP fait partie de l'état-major. C'est l'état-major qui doit faire une déclaration. Nous n'avons pas oublié nos camarades qui sont tombés lors de l'insurrection.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et maintenant, un coup d'œil sur l'actualité économique avec Gabi Dorsil dans la Minute Éco. Bonjour Gabi.
Bonjour Camille.
L'État gabonais annonce des mesures pour résorber la crise.
En effet, le gouvernement du président Ali Bongo a introduit une feuille de route mettant l'accent sur la diversification, la compétitivité, une meilleure gestion des ressources de l'État et le maintien des efforts d'investissement. Le Gabon, on le sait, dépend en grande partie de son industrie pétrolière. Vu la récente chute des cours de l'or noir sur le marché mondial, Libreville veut développer d'autres secteurs économiques tels que le tourisme, l'artisanat, l'agriculture, en particulier les produits de la filière café-cacao. Il s'agira aussi de réduire les dépenses publiques et le train de vie des officiels du gouvernement à tous les échelons, si l'on en croit bien sûr cette feuille de route anti-crise.
Un ouf de soulagement pour Sénégal Airlines.
Au bord de la banqueroute, la compagnie aérienne va être sauvée par un transporteur aérien des Émirats Arabes Unis. D'après plusieurs médias sénégalais, des pourparlers sont en cours, même si un mémorandum d'entente a déjà été paraffé avec Dakar dans le cadre d'un projet de recapitalisation partielle de Sénégal Airlines, c'est-à-dire à hauteur d'une minorité de 33%, l'État sénégalais conservant la majorité du capital.
Gabi, MoneyGram continue de croître en Afrique.
Oui, puisque le réseau de cette société de paiement et de transfert d'argent vient d'atteindre 25 000 agents sur le continent. MoneyGram est actuellement présente dans 50 pays africains.
Et parlant de transfert d'argent, la Somalie souhaite la levée de la suspension annoncée par les banques américaines.
C'est le Premier ministre Omar Abdirachid Chamarké lui-même qui a demandé ce week-end au gouvernement américain et aux banques basées aux États-Unis de reprendre les services de transfert d'argent vers son pays, car, dit-il, ces services sont d'une importance cruciale pour beaucoup de Somaliens.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Gabi. La chanteuse Angélique Kidjo, l'une des plus grandes stars de la musique africaine, a gagné dimanche son second Grammy, récompensant le meilleur album de musique du monde pour Eve, dédié aux femmes d'Afrique. Cet album est dédié aux femmes d'Afrique, leur beauté, leur résilience, a déclaré la chanteuse béninoise en recevant son prix. Femmes d'Afrique, vous êtes formidables, a-t-elle dit. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Herbertson, au micro Camille Grosdidier. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bonne journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.